Alors, bon matin, encore une fois, c'est une joie, un privilège d'être parmi vous un autre dimanche pour justement partager ensemble la parole de Dieu, la vérité et la vérité aussi qui transforme les vies. Alors, la semaine dernière, juste pour peut-être nous remettre un peu dans le contexte, nous avons commencé une toute nouvelle série qui s'intitule « Si Noël m'était compté ». Et nous avons dit que, justement, Noël était une histoire de joie. Pourquoi? Parce que quand les anges sont venus annoncer cette bonne nouvelle, ils ont dit aux bergers, ce sera pour tout le peuple un sujet de joie. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et pour résumer le message, si vous n'étiez pas ici la semaine dernière, le sauveur fait de nous, qui avons cru en lui, ce que j'appelle les VIP. Parce que la joie, c'est justement quand nous avons ce sentiment de bonheur, quand nous avons des désirs ou des aspirations qui ont été comblées. Et nous avons vu justement quand, dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait créé l'homme à son image et ainsi de suite, Adam avait tout perdu. Il avait perdu la vie éternelle, il avait perdu cette intimité, cette proximité avec Dieu, et aussi il avait perdu cette perfection qu'il avait. Alors, le Sauveur revient, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous redonne la vie, et il nous redonne une intimité avec lui, et il commence déjà à nous rendre semblables à son image. Et un jour, on sait que dans la présence de Jésus-Christ, au nord de l'agneau, ça va être la perfection. Alors, on a la vie, on a l'intimité et on aura aussi la perfection. Nous sommes ce matin des VIP, gloire au Seigneur. Alors, nous voulons continuer. Ok, nous voulons continuer. Est-ce que quelqu'un pourrait allumer ce matin avec justement le deuxième message dans cette série que j'ai intitulé Noël, une histoire de paix. Non, c'est pas allumé. On va laisser les techniciens s'en occuper. OK. Alors, on est rendu trop loin. On va reculer. Voilà. OK. C'est bon, mais c'est, j'ai besoin de cela aussi. Ok, on va y aller. Alors, ce matin, où nous allons voir, comme je dis, la deuxième dans cette série, si Noël m'était compté. Merci beaucoup, mon frère. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu des expressions? Et je pense que Stéphane a fait référence à cela dans sa prière, telle que « Où était Dieu quand ?» Si Dieu est bon, comme la Bible prétend qu'il est, pourquoi a-t-il permis une telle et telle chose? Si Dieu est en contrôle, comment se fait-il que... Et je sais qu'il y a ces questions que le monde pose. Et qu'est-ce que, si nous regardons ces questions, pourquoi la souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu a permis une telle chose? Où était-il quand une telle chose m'est arrivée? Quel est le dénominateur commun de toutes ces questions que nous pouvons poser? C'est justement un manque de confiance à l'égard de la personne de Dieu. C'est la méfiance. Et ce matin, devant vous, je dois être honnête et transparent pour vous dire je ne suis pas à l'abri de cela. Et pour moi, c'est une lutte. Et je vous dis pourquoi, juste rapidement. Mon père a perdu son père quand il était enfant, très jeune. Et ma grand-mère a élevé ses enfants seuls, ils étaient sept. Alors, il n'y a pas connu un père qui était là, présent pour lui, pour l'encourager, l'entourer. Et quand il s'est marié, il n'a pas su transmettre justement ce besoin fondamental Oui, il était un Père qui a pourvu à nos besoins, on sait qu'il nous aimait, mais cette proximité, il n'a pas reçu de son Père parce que son Père est mort quand il était jeune, il n'a pas su le donner à ses enfants. Alors j'ai appris très jeune à me débrouiller, faire confiance à moi-même, et quand je suis dans une situation où est-ce que je ne suis pas en contrôle, je panique, c'est difficile pour moi et c'est quelque chose, comme je vous dis, c'est une lutte dans ma vie. Il faut que j'apprenne à faire confiance totalement à Dieu, mais ce n'est pas facile. Et d'où vient justement cette méfiance qui est collée à notre peau, mais on retourne encore, comme la semaine dernière, dans le jardin d'Éden, où Dieu avait justement créé cet homme à son image, lui avait donné tout. Et il y avait simplement une seule chose, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons la triste histoire, l'homme a manqué de confiance envers son Dieu. C'est comme s'il disait, écoute, toi tu me dis de ne pas faire cela. On sait que Satan est venu tenter Ève. Ève a été séduite, Adam aussi a pris de ce fruit. Et devant Dieu, devant le Créateur du monde, devant celui qui est infiniment bon et qui avait leur bien à Caïn, il avait donné tout ce qu'il fallait, ils ont dit, on ne te fait pas confiance. Et cette, on sait la triste histoire, ils ont mangé de ce fruit et le péché est entré dans le monde. Et cette méfiance-là, a été transmise justement de génération en génération. Et puisqu'on ne peut pas faire confiance à Dieu, il nous a empêchés d'avoir quelque chose qui est pour notre bien. On va maintenant organiser notre vie de façon différente. Dieu, on ne peut pas te faire confiance. Alors on veut justement vivre selon notre propre standard, notre propre justice et ainsi de suite, parce que tu n'es pas digne de confiance. Et nous voyons le résultat maintenant, après cela, dans les générations qui suivent. Nous avons Caïn qui décide de venir à Dieu de sa propre manière et offrir un sacrifice à l'Éternel que l'Éternel va rejeter. Et quand il est rejeté, il est fru. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va, après cela, se venger sur qui? Son frère. Et voyez tout de suite maintenant comment la justice de Dieu, ses desseins sont contrecarrés parce que Caïn agit selon sa propre façon de voir la vie. Et après ça, on voit comment ça dégringole. On arrive maintenant à un homme qui s'appelle Lémec, c'est dans le premier chapitre de Genèse, et qui va tuer justement un homme et qui va s'en vanter. Imagine, complètement à l'encontre des principes de Dieu qui avait établi cet homme pour vivre en relation d'intimité avec lui et avoir une vie heureuse. Et on voit maintenant comment ça se dégringole et dégrade. Et quand on arrive au Genèse chapitre 6 maintenant, c'est terrible. La parole de Dieu nous dit que la méchanceté des gens était grande sur la terre. La terre était corrompue. Il y avait la violence et ainsi de suite. Et la rébellion maintenant est là. C'est comme si l'homme lève son poing vers le ciel et dit, Dieu, on n'a pas besoin de toi, on est capable de se débrouiller. On établit notre propre standard, nos propres règles, et voici comment est-ce que nous allons agir, que tu le veuilles ou non. Caïn rempli de violence, la rébellion est là. Et on pourrait se poser la question ce matin, comment Dieu, lui, a réagi cela, à cela? Vous savez, comme on dit un bon Québécois, cela est venu le chercher. Pourquoi? Parce que cette attitude qui se traduise par, justement, un manque flagrant de la justice de Dieu, et nous avons les gens qui ont corrompu leur voie sur la terre est remplie de violence, et ainsi de suite, ça vient chercher Dieu parce que le message que cela envoie à Dieu, c'est parce que tu n'es pas compétent. Tu n'es pas en contrôle. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Alors, nous allons organiser notre terre et notre monde à notre façon. Et ça va justement, comme je dis, chercher Dieu dans sa personne. Il est tellement saint, il est tellement juste, il est tellement bon, il est tellement droit. C'est comme des insultes, c'est des injures, ça rabaisse sa personne. Et l'homme fait complètement fi de Dieu et de ses principes et de sa justice. Et ça vient le chercher. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu était affligé dans son cas. Et plus qu'affligé, ça s'est traduit plus tard par une sainte colère. Cette autorité qui était complètement bafouée, ça excite la colère de Dieu. Ce n'est pas un sujet qu'on aime à parler souvent, on parle du bon Dieu. Mais pouvez-vous imaginer, vous êtes l'autorité suprême, c'est ta terre que tu as créée, c'est l'homme que tu as créé, tu lui as donné cela. Et voici comment est-ce qu'il répond à toute cette bonté, sur cette bienveillance que tu avais à son égard, et comment est-ce qu'il est en train de se comporter sur cette terre qui t'appartient. Son autorité est complètement bafouée. Et vous avez sans doute eu ce type de sentiment quand vous étiez devant des personnes à qui n'ont aucun respect pour votre autorité, qui vous envoie vous promener, quoi que ce soit. Et Dieu, imagine qu'il est trois fois saint. Et nous voyons la conséquence, s'il va envoyer un déluge, justement pour détruire l'homme sur la terre. Mais il y a un homme qui trouve grâce à ses yeux, dans sa bonté, c'est Noé. Et Dieu va exterminer l'homme sur la face de la terre, et il va recommencer avec Noé. Et de Noé est venu Abraham, et d'Abraham est venu les enfants d'Israël. Et l'histoire se répète. Dieu va les sauver de l'esclavage en Égypte, il va les amener dans le désert. Et qu'est-ce qu'on voit à travers cette histoire dans le désert? Encore la même chose, la méfiance. Pourquoi, Moïse, tu nous as-tu amenés dans le désert pour nous faire mourir? Pouvez-vous imaginer comment est-ce que l'Éternel qui avait justement s'est investi dans ce peuple, comment est-ce qu'il a pu se sentir? Ils ne sont pas capables de faire confiance. Et là, ils attribuent à Dieu des mauvaises dispositions à leur égard. C'est juste pour nous faire mourir qu'il nous fait sortir de l'Égypte. Et on voit encore une fois combien de fois on lit que la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël. Et c'est pas, ça ne s'arrête pas là. Ils amènent dans le pays promis un pays où coule le lait et le miel. Il leur donne des juges et ainsi de suite. Et c'est comme, ça se répète. Et cette méfiance va jusqu'au point d'une rébellion où est-ce qu'ils vont remplacer Dieu par des faux dieux et servir justement des Baals et des Astartés. Et encore une fois, le message, c'est comme si on voyait Dieu. On ne veut rien savoir de toi, on va établir notre propre justice, notre propre système et nos propres dieux. Et Dieu, dans sa patience avec ce peuple-là, finalement, ils sont amenés en captivité et ainsi de suite. Et on voit comment est-ce que l'homme, avec cette méfiance qui est là, irrite son Dieu et justement subit, comme nous avons avec les enfants d'Israël, les conséquences de cela. Et qu'en est-il pour nous, notre monde aujourd'hui en 2016? On n'est pas mieux. On est rendu dans la même situation. Nous avons un monde qui s'organise sans Dieu, sans ses principes, sans la justice de Dieu, sans ses préceptes. Et nous voyons les conséquences de cela. Nous voyons la violence, les guerres, les enfants qui sont tués dans le sein maternel, et ainsi de suite. Et cette méfiance de Dieu qui pousse l'homme à la rébellion va arriver à son apogée sous l'Antichrist. Et là, on va voir justement un homme qui vient pour dire: je suis Dieu. Tout ça, c'est juste que la méfiance, ce manque de confiance dans la bonté de l'Éternel et ses plans pour l'humanité peut pousser l'être humain jusqu'au point de dire: ok, t'assois, c'est moi qui prends la place. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir la réaction de Dieu à cela. Ce n'est pas beau à voir, parce qu'encore une fois, cette attitude-là, où est-ce que Dieu est tassé, où est-ce que l'homme est méfiant et ancré dans sa méfiance, excite sa colère, et le livre de l'Apocalypse, c'est quoi ce que Dieu va dire, c'est assez. Il va déverser sa colère sur la terre. Et nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans un tel monde, et nous sommes pris avec notre vieille nature, la chair, et qui aussi a hérité cette tendance de ne pas faire confiance à Dieu et d'être justement méfiant, et je ne vous apprends rien. La parole de Dieu nous dit que nous avons l'esprit et nous avons la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et on ressent cette tension en nous. Et l'esprit aussi, on a de ceux qui sont contraires aussi à la chair. De sorte que vous ne... Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et dans tout cela, nous voyons alors cette... opposition entre le ciel et entre la terre, entre Dieu et sa justice et sa bonté, et entre l'homme avec sa méfiance et sa méchanceté, et on écope, parce qu'on est toujours avec une chair mortelle. Et malheureusement, il y a des occasions où on se laisse aller, et on tombe aussi avec la rébellion à l'égard du Seigneur. Et peut-être ce matin, je ne sais pas, quelques-uns, peut-être ce matin, vous êtes en train de lutter avec cela. Alors, quelle est la solution pour tout cela? Comment est-ce qu'on peut, dans cette situation où est-ce que nous avons le ciel, Dieu, sa justice, sa bonté, diamétralement opposée à la terre, avec sa méfiance, sa méchanceté, sa rébellion. Et comme je dis, la raison, c'est parce que la nature de Dieu et la nature de l'homme sont complètement opposées. Et Dieu ne peut pas changer sa nature sans compromettre sa justice. Il ne peut pas dire, je ferme mes yeux à cela, parce qu'il est infiniment juste et saint. Et sa sainteté va toujours exiger qu'il réagisse face à ce que la terre est en train de produire, cette méchanceté, cette méfiance, cette rébellion. Alors Dieu, il ne peut pas changer, il va toujours rester dans cette condition. Et l'homme aussi par lui-même ne peut pas changer non plus. Quand vous lisez dans Genèse, la parole de Dieu nous dit que la nature, les pensées de l'homme, du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alors vous avez deux entités, Dieu d'un bord, l'homme de ce côté, diamétralement opposés, le ciel avec tout ce que ça demande, la terre avec ce que ça produit, et comment est-ce qu'on va rapprocher les deux? Comment approcher un Dieu saint avec un homme pécheur? Qui pourrait être un médiateur entre ces deux? Dieu saint et l'homme pécheur. Nous avons une bonne nouvelle. Et ça, c'est Noël. Si Noël m'était compté. Parce que la parole de Dieu nous dit ce matin que Dieu a trouvé la réponse. Oh, que notre Dieu est extraordinaire. Quand le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. L'homme, il reste campé dans son coin, avec cette méfiance, cette méchanceté dans son cœur. Il ne fait pas confiance à Dieu, mais Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde, et c'est lui qui va faire le premier pas pour rapprocher les deux. Et on va lire le texte ce matin pour voir maintenant comment est-ce qu'il a fait cela. Je vous invite à prendre vos Bibles et tourner dans Luc chapitre 2. Et on va lire au verset 8 juste pour nous remettre dans le contexte. Mais notre texte pour ce matin, c'est le verset 13 et le verset 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » La Bible du Semeur veut dire ici « c'est paix sur la terre, bienveillance aux hommes. » Dieu, malgré l'attitude de l'homme, malgré la rébellion, malgré la méfiance, il y a des dispositions bienveillantes envers sa créature. Et c'est pourquoi il a pris le premier pas pour aller vers l'homme, pour lui annoncer la paix. Alors, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu à Bethléem comme un bébé, c'était pour enclencher un processus de paix entre le ciel et la justice de Dieu et l'exigence de la sainteté de Dieu et la terre avec sa méfiance et sa rébellion contre la justice et les principes et les préceptes de Dieu. Ça, c'était le médiateur qui allait rapprocher les deux. Et si on veut bien comprendre le contexte, qu'est-ce que nous allons voir? La paix parle de la cessation des hostilités. C'est un état de concorde, d'accord entre les membres d'un groupe, d'une nation. C'est une tranquillité, quiétude d'esprit. Et on a des expressions comme quand deux nations sont en guerre, on part de signer justement des accords de paix. On va cesser des hostilités. On va vivre en paix avec maintenant et aussi avoir la conscience en paix. Et quel beau mot hein, dans notre vocabulaire, ce mot paix et tout ce que cela englobe. Et c'est pourquoi je vous ai brossé alors ce tableau de ce qui existe entre Dieu et ce que le ciel représente. Et ce que nous les humains on fait avec la terre. Avec notre nature corrompue, et pour moi maintenant, comment Dieu, dans sa sagesse, va réconcilier, va rapprocher ces deux choses de façon extraordinaire. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit au début, que Dieu est saint, il ne peut pas compromettre sa sainteté. Alors, dans un premier temps, il va envoyer Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde comme un enfant, et justement pour vivre une vie parfaite, parce que quand Dieu a créé l'homme, c'était son désir premier que l'homme marche de façon intègre devant son Dieu, en lui faisant confiance et en ayant cette attitude justement d'adoration, de remerciement, de gratitude envers son Créateur. Ça, c'est le but de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Pour que l'homme puisse bénéficier. Notre frère Michel a dit ce matin, « Oui, je remercie le Seigneur parce que tu existes. » Mais l'autre côté de la médaille est vrai aussi. Dieu nous a sortis du néant. Et ce matin, puisque nous le connaissons, nous pouvons dire, « Je te remercie parce que j'existe et je peux te connaître. » L'infini Dieu est jouir de ta présence et ta bonté et tout ce que tu as pour moi, c'est extraordinaire comme don que Dieu a fait à l'humanité. Et il n'y avait personne jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour vivre une vie en conséquence de tout ce que Dieu avait donné à l'homme. Et là, nous avons Jésus-Christ qui va venir maintenant pas affliger le cœur de Dieu, parce que les hommes affligent le cœur de Dieu. Mais il va justement donner cette joie en étant le Fils obéissant. Et Jésus-Christ sur la terre comme homme parfait, qui représente ce que Dieu a toujours voulu que nous, les humains, soyons. il vit une vie, il résiste à la tentation. Contrairement à Adam qui est tombé justement dans le panneau du diable et Ève, Jésus résiste à la tentation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur la parole de Dieu. Si Ève avait dit, là, quand le diable est venu, et dire, Dieu a-t-il réellement dit? Si elle était retournée justement, non, je ne t'écoute pas parce que Dieu a dit. Mais là, elle a dit, bon Dieu, et il a dit, on ne touchera pas, et ainsi de suite. Mais là, le diable, il est venu en arrière. Non, c'est pas comme ça, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu, il sait, il a mis des doutes. Mais Jésus-Christ, là, complètement différent. Complètement différent. Devant Dieu, devant Satan, ses attaques, il dit, non, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et ça, le camp de Dieu, il devait être réjoui maintenant de voir un homme. Notre sœur a parlé justement de Dieu en étant Dieu, Jésus-Christ, mais aussi dans son humanité. La perfection, l'homme parfait qui va dire à Dieu, je te fais confiance et je vais respecter ta parole et je vais marcher selon ta parole, droitement, une vie parfaite. Résiste à la tentation. Soumis à la volonté de Dieu complètement. Et il fait la volonté de Dieu. Il a pu dire, je fais toujours celui qui est agréable. Il offre un sacrifice parfait. Christ s'est offert lui-même à Dieu. Pourquoi je dis que c'est un sacrifice parfait? Parce que Dieu a été affligé dans son cœur. L'homme est le responsable de cette colère divine qui pèse sur l'humanité. Et même s'il avait trouvé une manière, en attendant que son fils arrive pour donner le sacrifice ultime en égorgeant les animaux, ça ne pouvait pas remplacer. L'homme est coupable et l'homme doit payer. Alors Jésus vient maintenant en tant qu'homme pour apaiser la colère de Dieu et en tant qu'homme, il s'offre justement à notre place. L'humanité a péché, l'humanité paye en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que Dieu attendait. Et la troisième chose aussi, il offre un sacrifice unique. Pourquoi unique? Parce que cette colère que Dieu a contre le péché est une colère divine, sainte, mais ce qui est infini. Comment est-ce que tu vas apaiser la colère d'un Dieu infini? Ça prend un sacrifice infini. Et c'est pourquoi quand les personnes meurent, ils s'en vont à l'enfer, ils vont rester là pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il y a même une éternité de souffrance. Le péché est tellement laid aux yeux de Dieu, et Dieu est tellement saint, que même une éternité de souffrance ne peut jamais, jamais, jamais souffrir à apaiser la colère de Dieu. Parce que ça prend un sacrifice infini pour apaiser un Dieu infini. Et là, vous avez Jésus-Christ qui met les deux ensemble. Homme et Dieu, il offre un sacrifice infini. Et voilà que la colère de Dieu est apaisée. Alors, les exigences de Dieu maintenant en ce qui concerne le péché sont satisfaites. De l'autre côté, l'homme est dans son camp, il est méfiant. Et on a vu comment la méfiance, qu'est-ce que la méfiance amène l'homme à faire. Est-ce qu'il va s'approcher de la table de négociation pour justement faire la paix avec Dieu? Laissez lui-même, non. L'homme est méfiant de nature. Et qu'est-ce que Dieu fait dans sa sagesse? Il va envoyer son fils, mais comme un homme. Et quand on regarde quelqu'un qui vient et qui prend la même nature que nous, et qui marche parmi nous, et qui fait tellement de bien, et qui est là pour nous, ça fait tomber un petit peu nos gardes. Okay? Il n'est pas venu comme Dieu là, pour écraser, puis avec une sainteté éblouissante pour écraser l'humanité. Il est venu comme un simple homme parmi nous, à l'un des nôtres. On peut l'appeler comme ça. Jésus-Christ est l'un des nôtres, est un homme. Et déjà, le fait que Dieu le confie à des parents humains pour qu'ils autres, ils vont l'entourer, ça nous montre un peu cet rapprochement maintenant et qui fait en sorte qu'on okay, on est plus inclin de lui faire confiance. On ne sait pas exactement ce qu'il veut, là, mais il est là parmi nous comme un de nous. La deuxième chose qu'on voit ici pour justement attirer l'homme et le sortir de sa méfiance, c'est qu'il participe à nos souffrances. Là, tu vois quelqu'un là, qui vient et qui va avec toi souffrir. Et ça crée un lien. Vous savez, quand on est dans la souffrance, combien ça nous fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un là qui s'intéresse, quelqu'un là qui peut écouter, quelqu'un là qui participe, qui sait, je sais qu'est-ce que tu es en train de vivre parce que mon cœur, justement, est uni avec ton cœur et ensemble on va souffrir. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait avec l'humanité. Il a participé à nos souffrances. Il sait qu'est-ce que c'est d'avoir faim. Il sait qu'est-ce que c'est d'être fatigué. Il sait qu'est-ce que c'est d'être méprisé. Il sait qu'est-ce que c'est d'être injurié. Il sait qu'est-ce que c'est d'être rejeté, d'être compris, d'avoir des angoisses. Et c'est pourquoi que quand nous sommes dans cette situation-là, nous avons un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Parce qu'il a été tenté comme nous. Il a subi des épreuves comme nous sans commettre le péché. Est-ce que ça va inspirer la confiance? Bien sûr. Mais je pense que la chose ultime, c'est qu'il va aller nous remplacer et mourir à notre place, à la croix. La sainteté de Dieu exige que le péché soit payé. Et Jésus-Christ va venir se sacrifier pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix, Isaïe nous dit, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors voilà. Ça, c'est la table de négociation. Dieu est satisfait. Jésus-Christ va tout apaiser sa colère en lui donnant exactement ce que la sainteté de Dieu exige. L'homme, maintenant, est là et il regarde le Fils de Dieu qui vient et il regarde ça. Oui, ah, ça, c'est un Dieu. Je peux lui faire confiance. Il est allé mourir à ma place à la croix. Je peux lui faire confiance. Et voilà comment est-ce que maintenant Dieu veut rapprocher les deux. Et ce que nous avons, alors dans la belle histoire de Noël, une histoire de paix, réconciliation. Dieu apaisé, sa colère apaisée, l'homme, sa méfiance dissipée par la croix. Et quand je regarde le Christ qui meurt pour moi sur la croix, je vois un Dieu qui m'aime. Et c'est pourquoi les anges, quand ils sont venus, ont dit, bienveillance, paix sur la terre et bienveillance aux hommes. Parce que Dieu avait des bonnes dispositions envers l'homme. Et ça, c'est l'histoire de Noël. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Cette belle histoire de Noël, où est-ce que Dieu réconcilie l'homme et justement avec lui-même à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a deux applications que je veux laisser avec vous autres. Ce matin, si vous n'avez pas cette paix, c'est parce que il vous manque quelque chose. J'ai parlé de cette tension entre le ciel et la terre à cause de la méfiance. On ne fait pas confiance à Dieu dans son plan, dans ses projets pour l'humanité. Et cela puisse, comme je dis, nous amener jusqu'à un état de rébellion. Et Dieu est tellement sage, Dieu a remis maintenant cette relation de paix avec lui, il a enveloppé ça dans le même contexte de confiance, étant justifié par la foi. Et c'est quoi la foi? C'est d'avoir confiance. Et ça vient de donner un dernier clou dans le cercueil de la méfiance. Et si vous n'êtes pas attaché au Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez pas la paix avec Dieu, c'est par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ que vous allez avoir cette paix. Et si vous ne l'avez pas ce matin, je vous invite justement à tourner vers le Christ et de considérer ce qu'il a fait à votre place et de dire, comme cet homme a dit il y a si longtemps, Dieu soit apaisé envers moi, un pécheur. Il s'est reconnu coupable, mais il a vu que le Christ est mort à sa place. Et ça, Dieu nous dit, c'est la réconciliation avec Dieu. Mais pour nous, les chrétiens, On a cette paix avec Dieu, mais comme je dis, on lutte avec avoir une vie où est-ce qu'on peut faire confiance. On lutte avec ça. Moi, je lutte avec cela. Et voilà comment est-ce que le Seigneur maintient. Vous avez-vous remarqué que quand l'apôtre Paul y écrit ses lettres aux chrétiens, qu'est-ce qu'il dit souvent au tout début? Que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Mais j'aimerais vous suggérer, c'est que si nous sommes sauvés, comme nous avons vu dans Romains 5.1, nous avons la paix avec Dieu. Okay? Mais il y a une manière de jouir de cette paix. C'est de goûter pleinement. Et je pense que ça, c'était justement ce que l'apôtre Paul voulait transmettre à ces chrétiens-là, que vous avez la paix, mais j'aimerais justement que vous vous exaltez dedans. Et il y a une manière de faire cela, parce que Dieu, dans ce qu'il a fait, c'est notre vilain caractère qui est toujours porté à aller vers la méfiance. Dieu va dire, OK, vous vous donnez mon Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il travaille sur notre méfiance. Si on laisse agir, qu'est-ce qui va produire? L'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour nos semblables. Il va produire la joie et il va aussi produire quoi? La paix. Alors, un chrétien qui est rempli de l'esprit, il vit, baigne justement dans la paix. Et ça nous aide alors, quand je suis dedans, pleinement, à contrecarrer justement ce sentiment de méfiance, de toujours vouloir méfier, avoir la méfiance à l'égard de Dieu. Ça, c'est une des choses. Une deuxième chose aussi, il va changer notre citoyenneté. Nous avons vu qu'au début, que le ciel et la terre sont diamétralement opposés. La terre est en rébellion. Mais là, Dieu vous dit, OK, je vous fais citoyen du ciel. Est-ce que vous allez être en guerre contre le ciel? Est-ce que le ciel représente ses principes? La justice du ciel. Alors, notre cité à nous est dans les cieux. Et ce royaume de Dieu est caractérisé par la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Alors, le chrétien, qui est pleinement conscient maintenant, qui a changé de camp, penses-tu qu'il va lever son doigt comme ça au ciel? Mais il fait partie, justement, de ce royaume. Il est content. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est que Dieu change notre conduite. Il va dire, écoute, je vais vous faire maintenant des ambassadeurs de paix. Et là, vous allez prendre le message de l'Évangile, et vous allez vous promener, et vous allez dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Et quand nous sommes engagés dedans, encore une fois, c'est une autre manière justement de repousser la méfiance qui nous colle à la peau. Parce qu'on est là en train de dire, de promouvoir justement la paix de Dieu. Et je vois quelque chose ici extraordinaire. Nous sommes portés à avoir cette méfiance à l'égard de Dieu. Dieu ici, en nous faisant des ambassadeurs de paix, il nous fait confiance. Mais ça me touche. Ça me touche. Il aurait pu donner le message de l'Évangile aux anges. Il dit, vous, les humains, qui rebellent contre moi si souvent et qui ont des difficultés à me faire confiance, je vous confie. Je vous fais confiance avec mon Évangile. Comment ça devrait nous voir que Dieu me fait confiance? Comment ça devrait nous inciter à leur dire, écoute, finis avec cette attitude de méfiance envers mon Père. Il est bon. Il y a des dispositions bienveillantes. Il me confie même son Évangile. Je vais lui faire confiance. Alors, ce matin, si vous oubliez tout ce que je vous dis, je vous donne un slogan que j'ai adopté. J'aimerais aussi que vous adoptiez. Ça, c'est le message dans une petite capsule. Abat la méfiance. Vive la confiance. Et juste, la semaine prochaine, on va voir le troisième aspect. Mais j'aimerais juste réfléchir un moment avec vous. Qu'est-ce qui arriverait si chacun de nous ce matin quittait justement cette salle avec cette ferme conviction de mettre en pratique justement qu'on va faire confiance au Seigneur. Je vous dirai qu'est-ce qui arriverait. Vous savez que Dieu a préparé des œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Mais c'est quoi le contexte de ces œuvres-là? Éphésiens 2, 8 à 10. Vous êtes sauvés par quoi? Le moyen de la foi. Encore la confiance. Et ma crainte, c'est que plusieurs entre nous, et je parle à moi-même, nous allons rater ces œuvres de justice que Dieu a préparées pour nous à cause de cette méfiance qui nous colle justement tout le temps. Et si nous pouvons avoir cet engagement de lutter contre la méfiance et de dire, Seigneur, je te fais confiance, tu as un plan pour ma vie. Qui sera ici de prochain Hudson Taylor pour aller? Où est-ce que le Seigneur veut l'envoyer? Qui sera George Mueller? Ce sont des hommes qui avaient cette confiance en Dieu. Ces œuvres, là que Dieu a préparées d'avance, et des œuvres de justice. Les œuvres qui ont leur naissance dans le ciel, pas sur la terre. La terre est contre la justice de Dieu, on l'a vu. Mais les œuvres de justice que Dieu a préparées pour vous et pour moi, parce qu'il nous fait confiance. Et qu'est-ce qu'il demande, c'est que nous fassions confiance en retour. Et la dernière chose, Dieu sera glorifié. C'était quoi le message des anges? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Si vous viviez une vie où est-ce que votre slogan c'est « Abba, la méfiance, vive la confiance, Dieu sera glorifié. » Et vous entreriez vraiment dans l'esprit de Noël. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps de grâce, ce temps de bonté, tant de bienveillance à notre égard. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons douté de ta bonté, ta bienveillance à notre égard. Remplis-nous, Seigneur, de cette paix intérieure qui dit, tu es mon Père. Et je suis comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je n'ai pas d'inquiétude. Tu es pour moi. Qui sera contre moi? Alors bénis ton peuple ici, Seigneur, et donne-nous la grâce, Seigneur, de vivre justement en conséquence de ce que nous avons entendu ce matin. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.